marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. Le thème de nos rediffusions cette semaine, des arts.
On ne subit pas seulement l'histoire, on la crée.
Les origines de l'art brut.
Les gens sont habitués à voir dans les galeries, dans les musées, une sorte d'art. Ils s'imaginent qu'il ne peut pas y en avoir une autre, qu'il n'en existe pas une autre. Ils ne s'imaginent pas qu'il peut y avoir un art qui est sur un autre rail que celui de l'art culturel. Il faut observer que les gens qui luttent un petit peu contre les usages, contre les façons de se comporter habituelles, ceux-là sont traités par le public d'originaux, de gens singuliers, et ceux qui véritablement n'adoptent rien des conventions, des usages, eh bien ceux-là sont emmenés par la police à l'hôpital psychiatrique et sont décrétés par les médecins des malades.
C'est Jean Dubuffet qu'on vient d'entendre, on le retrouvera à la fin de l'émission, c'est lui qui a fait émerger le mot « art brut ». Allergique à toute forme inculquée d'art culturel, il s'en était allé en 1945 explorer dans les asiles suisses ce que quelques internés déjà identifiés pouvaient créer de radicalement nouveau. Ainsi Wolfi, enfermé pour attentat à la pudeur, ou Aloïse, pour propos pacifistes délirants tenus dans la rue. Mais Dubuffet était attiré aussi, il vient de le dire, par les originaux, les inspirés des bords des routes, les champions du non-alignement, ces hommes et femmes du commun qui produisaient du singulier. Le seul connu alors d'un assez vaste public, l'aïeul, c'était le facteur cheval. Dans le livre d'or des visiteurs du palais fantastique de la Drôme que le facteur construisit avec ses mains et sa brouette, on lit ceci. « Enfin quelqu'un qui a des idées aussi folles que moi ». Voilà une bonne définition de l'art brut. C'est le travail entrepris par quelques-uns pour retrouver, malgré la gangue sociale, le diamant que nous ne parvenons pas à extraire et sous les couches sédimentées, l'inouï que nous portons tous en nous. Son sens déterminé ou pas, le mot art brut s'est peu à peu répandu. Il a été évidemment discuté. Ceux qui sont habitués par l'art culturel à s'inscrire dans des catégories ont cherché à le rapprocher, à le distinguer de ce qu'ils ont l'habitude d'appeler l'art naïf, l'art informel, etc., etc. Jean Dubuffet avait l'habitude de dire « ne cherchons pas plus avant, on comprend ». Enfin, ce qu'on comprend en tout cas, c'est que la notion est un formidable levier qui renverse les hiérarchies et permet de penser l'art autrement, art brousse-poil, en le nourrissant des forces sauvages venues de l'extérieur et des étrangetés que nous resserrons en nous-mêmes.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
En compagnie de Martine Luzardi, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez l'art brut chez Citadel et Masno. C'est une somme, enfin que vous avez dirigée, c'est un travail collectif. C'est une somme à tous les sens du mot.
Hein. Tous les sens du mot.
On n'en dira pas davantage, mais nos auditeurs ont deviné la taille, le poids, peut-être le prix de cet impressionnant volume. Vous dirigez aussi régulièrement la Halle Saint-Pierre à Paris, dans le 18e arrondissement de la capitale. Et vous aimez bien d'ailleurs aller un peu partout à travers le monde pour voir les œuvres. Je suis sûr que vous préférez ça à être dans un studio de France Inter.
Je suis contente d'être là, je suis contente de vous rencontrer, même si je suis impressionnée et un peu stressée. Mais rencontrer des œuvres, oui, on peut pas toujours rencontrer les artistes parce que certains sont morts. Et puis dans le cas de l'art brut, où on a affaire, comme on dit, à des fous, enfin à des personnes en situation sociale particulière, c'est pas toujours très facile de les rencontrer. Mais pour moi, il est incontournable d'être à un moment donné en présence des œuvres, pour les ressentir, les comprendre et puis ensuite les faire dialoguer entre elles. Donc c'est toujours une rencontre avec des œuvres et avec des auteurs à travers leurs œuvres. C'est une œuvre, une vie, chaque fois.
Une œuvre, une vie. Alors on va commencer par un premier versant, les hommes du commun qui sont singuliers. Alors ça c'est une formule que vous trouvez, oui, assez juste, mais en même temps, tout le monde devrait être singulier.
Oui, on devrait tous être singuliers, mais justement, la culture dans laquelle on baigne, la vie que l'on mène, la société, les autres, fait qu'on renonce petit à petit à cette singularité pour s'aligner sur la norme.
Mais en voilà un qui était paysan, fils de paysan. Il avait toutes sortes de métiers avant d'être facteur. et qui disait qu'on pouvait être de cette catégorie sociale qui était la sienne, humble, et en même temps avoir du génie. Nous sommes dans la Drôme, à Haute-Rive, dans le nord du département, à la fin des années 1870.
Facteur rural, je déambulais chaque jour de Haute-Rive à Tersanne, dans une région où la mer a laissé des traces évidentes de son séjour. J'avais à effectuer chaque jour une tournée de 32 kilomètres. Que faire en marchant perpétuellement dans le même décor, à moins que l'on ne songe? Pour distraire mes pensées, je construisais en rêve un palais féerique, dépassant l'imagination, tout ce que le génie d'un humble peut concevoir, avec grottes, tours, jardins, châteaux, musées et sculptures, cherchant à faire renaître toutes les anciennes architectures des temps primitifs. Toutefois, du rêve à la réalité, la distance est grande. Voici mon rêve. À l'œuvre, je me suis dit.
Ah, mais je l'ai vu. Je l'ai vu là au pont, le petit pont en bas. Là. Je l'ai vu le matin quand on allait à l'école, avant la guerre de 14, mon pauvre monsieur, qui chargeait ses roches au pont, là, qui les mettait sur le chemin pour aller à son palais.
Mais vous avez une idée de la façon dont il a pu construire tout seul cet édifice là?
Eh bien, écoutez, je ne suis pas bien documenté là-dedans, mais de toute façon, il en avait quand même dans la tête.
Oui, mais il en avait aussi dans les bras.
Puis il en avait là.
Oui.
Pierre Dumayet qui enquête à Haute-Rive beaucoup plus tard. Alors, il en a dans les mains, il a de la force, il en a dans la tête. Et puis, Martine Luzardi, un jour, le pied bute sur une pierre d'achoppement.
Maintenant, sa tournée, qui durait 8 heures, 33 kilomètres par jour, et 8 heures, il avait le temps, en effet, de rêver. Il a rêvé ce palais idéal. Mais entre le rêve et la réalité, il fallait quelque chose. Au bout de toutes ces années, on renonce à son rêve. Donc, le rêve est devenu diffus. Puis voilà qu'il bute sur une pierre, une sorte de pierre d'achoppement, qui avait la forme d'une fleur, qu'il a trouvée magnifique. Il l'a mise dans sa poche. Le lendemain, il est revenu, il en a pris d'autres. Et là, ça a réactivé son rêve. Et il a décidé de passer à l'acte. C'est le déclic qui, à la suite duquel, il a investi toute sa personne, tout son temps, pour construire ce palais idéal.
Mais cette pierre, il la collectionne avec d'autres, et le palais vient accomplir la nature. L'art accomplit la nature.
L'art accomplit la nature. C'est un homme de la nature, c'est un homme de la campagne. Il a été boulanger, mais il a été ouvrier agricole. Donc il connaît la nature, il connaît les pierres, mais il n'a jamais sculpté, il n'a jamais ciselé, il n'a jamais... C'est pas un artiste, c'est pas un travailleur de ses mains. Et quand il va tous les jours ramasser les pierres, c'est un écho entre ce qu'il voit et le rêve qu'il décide de matérialiser.
Attendez, c'est pas un artiste. Alors, quand on parle d'art brut, on hésite devant le mot artiste. Non plus qu'on emploie à l'époque le mot créateur qui n'existe pas. C'est un travailleur qui fait un travail. Peut-être le mot œuvre, vous l'accepteriez.
C'est pas un artiste dans le sens où l'art a une fonction sociale. Lui, il ne crée pas pour la gloire, il ne crée pas pour l'argent et il ne crée pas pour la reconnaissance ou pour avoir une place dans la société. C'est pas un métier. C'est vraiment une nécessité intérieure. C'est une œuvre spirituelle, mystique, et qui va prendre donc tous ses jours, toutes ses pensées, et qui va l'occuper des heures et des heures. Donc, c'est plutôt de la création. Mais pour lui, il n'appelle ça ni de l'art ni de la création, c'est un travail. Et il dit, il inscrit sur la façade de son palais 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuves. Et il lance un défi au monde, plus opiniâtre que moi, se mettre à l'œuvre. Donc c'est pas un rapport à l'art que nous avons là, c'est un rapport à la réalisation héroïque de lui-même.
Mais comment sa documentation lui vient-elle? Parce que le palais est contemporain de la découverte, ou antérieur à la découverte pour une bonne part, des temples d'Angkor. On se demande si les journaux de l'époque, que facteur il glissait dans sa besace, il les ouvrait pour voir des illustrations dont il se serait inspiré.
Il s'est inspiré de toutes les cartes postales, de toutes les photos qu'il a pu voir. Évidemment, on est à une époque de grandes découvertes. C'est la France coloniale qui est découvre des nouveaux territoires, donc il est fasciné par cet ailleurs géographique. Et en même temps, quand il fait ses tournées, il va livrer des magazines qui relatent toutes ses expériences et ses découvertes de la France et les expositions aussi universelles. Donc il doit probablement les lire et ça nourrit son imaginaire. C'est sa culture inconsciente.
La source de vie, le milieu du monument, le monument égyptien, puis des géants pour assurer la protection de l'ensemble. Enfin, un belvédère pour les touristes avec une terrasse et puis des escaliers, des profondeurs que Pierre Dumayet, toujours en quête à Autry, visite avec le docteur Gaston Ferdière. Vous savez, le psychiatre qui a traité plus tard Artaud à Rodez.
Nous sommes dans la maison de l'homme, dans le culte de l'homme à la fin du 19e.
Nous sortons d'un temple.
Et nous sortons d'un temple avec quatre colonnes. Nous sommes dans le domaine aussi de la coquille. Parce que ces colonnes sont faites de coquilles.
Les escaliers,
ben nous en avons eu un là d'abord, puis nous allons continuer. Nous sommes, à mes yeux, nous sommes tout de même dans cette impression toujours de labyrinthe qui aboutissent à quelque chose. Moi, je me crois souvent dans l'année dernière à Marienbad. Nous sommes dans un domaine où tout est enchevêtré, où tout est compliqué pour aboutir à une fin. Cette fin étant peut-être le point où nous sommes partis, qui est peut-être le début, j'en sais rien, moi.
Ah, ils mélangent tout cela. Nous sommes non seulement dans une somme historique, dans une somme artistique et polyartistique, mais nous sommes aussi dans une somme métaphysique.
Polyartistique, métaphysique, la vie, la mort, la fécondité, l'amour de Dieu. Vous avez employé le mot spirituel, bien sûr.
Spirituel, c'est un projet visionnaire aussi. C'est la fraternité entre les peuples.
Alors, à propos de fraternité, il va en créer, peut-être pas avec tous les habitants du village, beaucoup pensent qu'il a une abeille dans le chapeau, mais avec des touristes qui commencent à venir, parce que les cartes postales qu'il recevait et qui racontaient d'autres monuments, il les voit venir de Haute-Rive maintenant et raconter le monument au monde entier. D'ailleurs, il demande à toucher des droits, ça c'est une question importante dans l'art brut, la reconnaissance des droits du créateur.
Il demande à toucher des droits. Alors c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. C'est pas un fou. Même si dans le village il passait pour un fada, c'est sa construction, c'est son projet qui paraissait fou. Mais c'est un homme tout à fait normal et qui a connu quand même la misère et la famine. S'il est devenu facteur, c'est parce qu'il ne vivait plus de son travail agricole. Donc l'argent a toujours été une problématique réelle pour lui.
Un livre d'or, il y a 175 000 visiteurs par an, paraît-il, au palais du facteur cheval aujourd'hui, avec des formules de ce genre. Dommage que ça se mange pas. Je me demande où il mettait ses meubles. Et où est la boîte à lettres? Et cette phrase très jolie, je hennis de plaisir. Ça a été classé d'ailleurs finalement en 1975, après de longs efforts un peu inaboutis quand il était encore ministre, d'André Malraux.
Ça a été classé par Malraux après, en effet, de multiples péripéties et contre l'avis défavorable de la plupart des fonctionnaires du ministère de la Culture et qui écrivent dans un rapport « Le tout est absolument hideux, affligeant ramassis d'insanité qui se brouillait dans une cervelle de rustre ».
Ben oui, on est contre l'art brut du côté de l'art culturel, du moins pendant de longues décennies. Cette musique qu'on va mettre brièvement, parce qu'il ne faut pas troubler les esprits habitués à l'art culturel, on verra tout à l'heure à la fin de la démission qui l'a produite.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bien que nous nous penchions aujourd'hui sur l'œuvre d'esprit délirant, gardons notre esprit de méthode.
Et c'est ainsi qu'on va passer au deuxième versant de notre émission consacrée aux origines de l'art brut. L'invité est Martine Luzardi, la directrice de la Halle Saint-Pierre à Paris, et la directrice d'une somme chez Citadelles et Masneau consacrée à l'art brut. Vous aviez été chargée de nous trouver une musique hier, et vous avez écouté ça et vous avez dit...
Que ça allait être trop perturbant, trop ouais, bizarre.
Que c'était pas pour nous. Mais vous savez,
mais j'ai essayé de trouver l'équivalent, Pierre-Henri, mais on n'a pas pris.
Oui, mais ça c'est trop art culturel finalement. Voilà. Pierre-Henri, service de la recherche de la radio, vous voyez. Alors le mot délirant vient d'être prononcé. Deuxième versant, les délirants. Les artistes que... Enfin, attendez, je ne dois pas prononcer ce mot-là. Les créateurs, les internés, on va dire, qu'on va pouvoir trouver dans des collections... qui sont constitués dès avant la fin du 19e siècle par des psychiatres qui s'intéressent à ce qui peut surgir des établissements psychiatriques.
Mais les premiers psychiatres, au début du, il y avait les progrès de la psychiatrie, puis les avancées de la psychanalyse. Donc les psychiatres commencent à devenir plus humanistes. Et ils commencent à regarder les œuvres de leurs patients, non pas seulement d'un point de vue clinique, mais d'un point de vue artistique. Et des premières collections se créent. On garde les œuvres des patients dans les hôpitaux psychiatriques. On réunit des collections et même des musées. Le docteur Marie crée le musée de la folie à Villejuif. Et le docteur Paul Menu, sous le nom de Marcel Réja, fait paraître en 1907 l'Art chez les fous, le destin, la prose et la poésie. Donc c'est les premières avancées du regard que l'on porte sur les fous en le poussant vers la normalité.
La Grande Guerre va transformer aussi ce regard quand on voit apparaître dans un établissement psychiatrique un officier qui jusque-là était impeccable et qui commence à battre la breloque. On se dit, ça ne doit pas être un simulateur. Qu'est-ce qu'il veut bien dire ? Un jeune médecin auxiliaire est nommé à Saint-Dizier dans la Haute-Marne. Il s'appelle André Breton. Saint-Dizier, c'est à la fois un hôpital, un centre logistique, et tout près, il y a un tribunal militaire qui est chargé de distinguer qui est simulateur de qui est vraiment fêlé.
Oui. Mais il faut dire que à cette époque-là, à la guerre, il recevait tous les grands malades et les grands blessés. Et ce qu'il avait tout de suite remarqué, c'est qu'il tenait souvent des propos illogiques, gratuits, absurdes, mais que ces propos-là n'en constituaient pas moins des éléments poétiques de premier ordre. Alors évidemment, ça fascinait le logicien passionné,
rationnel,
qui était André Breton. Et ça l'a marqué plus tard, parce que en 1922, il écrit « L'entrée des médiums ». Et puis surtout, en 1924, quand il écrit le premier manifeste du surréalisme, il se rappelle de ses premières expériences et il dit « Reste la folie qu'on enferme, le profond détachement dont ils témoignent à l'égard de la critique que nous portons sur eux, voire des corrections diverses qui leur sont infligées, permet de supposer qu'ils puisent un grand réconfort dans leur imagination, qu'ils goûtent assez fort leur délire pour supporter qu'il ne soit valable que pour eux. » Alors évidemment, c'est une vision un peu romantique et un peu idéaliste de la folie, parce qu'il y a la folie pathologique, celle qui vous fait souffrir, et puis la folie poétique, celle qui vous libère justement de cette asphyxiante culture et qui vous pousse à créer.
Asphyxiante culture, on dira tout à l'heure de qui est le mot. C'est une énigme de plus à ajouter à celle de l'origine de la musique de tout à l'heure. Il en vient à penser, Breton, que les fous sont à bien des égards supérieurs aux poètes, j'allais dire professionnels, enfin, genre hommes de lettres. Il appartient quand même à cette catégorie parce qu'ils sondent l'inconnu et puis une fois qu'ils l'ont sondé, ils sautent à pieds joints dans le vide. Vous parliez de publication du début des années 1920. En 1922, Morgan Thaler publie « Un malade mental en tant qu'artiste ». C'est un drôle de titre ça. Et Morgan Thaler, c'est celui qui découvre, entre autres, Wolfi. Nous sommes en Suisse.
Nous sommes en Suisse, à l'hôpital de la Waldau à Berne, et est interné Wolfi, qui avait été arrêté pour des attouchements, probablement pour des faits, des attentats à la pudeur. Donc il est interné, et puis il s'évade, il brise la porte de sa cellule, il s'évade. Et une fois libre, il revient dans sa prison parce qu'il ne supporte pas la liberté, il ne sait pas quoi en faire. Et il se met à dessiner, à écrire son autobiographie, à composer de la musique. Et là, on comprend qu'en fait, à travers l'art, il rejoint il met en œuvre cette évasion symbolique.
L'autobiographie, alors c'est une sorte de frise, c'est indescriptible, extrêmement longue.
Hein? C'est des feuillets. Il peint même à un moment les murs, mais bizarrement, alors qu'on pense qu'il est indifférent à tout regard extérieur sur l'art, non, il est conscient de sa puissance créatrice et de la valeur de ses œuvres, et il vend, il échange ça contre du matériel, et puis aussi, on lui demande de temps en temps de créer ou de faire de la musique pour des fêtes à l'hôpital. Donc c'est un artiste qui casse aussi les préjugés qu'on a sur l'auteur d'art brut qui n'est pas conscient de son art et qui ne le maîtrise pas. Alors que quand on regarde les dessins de Wölfli, c'est extrêmement maîtrisé. C'est un dessin centripète qui part des bords et qui va vers le centre avec une force dans la composition et une maîtrise totale.
Donc la question du contrôle de ces travaux par le créateur, remarque oui. De plus après celle que vous faisiez sur le facteur cheval et ses droits sur les cartes postales. Suisse, toujours, Aloïse. Elle est internée en 1918, elle est un peu frappée aussi, hein. Elle a été gouvernante dans les bonnes familles, ce qui lui laisse une allure assez austère, mais enfin, délirante mystique, pacifiste invétéré.
Oui, quand on voit des photos, c'est une vieille dame au visage émacié avec un chignon, très stricte et très austère. Et quand on voit son œuvre, qui est une œuvre généreuse, une œuvre sensuelle, dans les très colorés, il y a vraiment une opposition entre l'apparence physique et ce qu'elle dessine. Et en fait, on comprend qu'elle donne à voir son monde intérieur.
Travaux très sensuels, ainsi que le note Jacqueline Porret-Forel, grande spécialiste d'Aloïse.
Alors, elle commençait toujours par utiliser le rouge. C'était la couleur qu'elle aimait le plus.
Elle disait le rouge, c'est beau pour les schizophrènes.
Voilà, elle disait le rouge, c'est beau pour les schizophrènes. Elle utilisait ça, et quand elle n'avait plus rien, plus de rouge, alors elle faisait autre chose, et ça prenait un autre caractère. Mais alors, quelquefois, alors j'ai parlé une fois avec une autre infirmière qui s'appelait Mme Borneau, qui est morte maintenant, qui m'a expliqué que elle avait toujours avec elle, elle avait un sac avec ses crayons et tout ça, elle avait une vieille cuillère à soupe. Dans cette cuillère à soupe, elle écrasait les restes de ses crayons, enfin des mines de crayons de couleur. Donc elle pouvait plus les utiliser comme ça parce que c'était trop court. Alors elle les écrasait et ensuite elle léchait et elle étalait sa couleur avec le doigt.
Elle mélangeait donc sa salive, oui, hein, et oui, c'est ça qui donne cet voilà. aspect très, très fluide.
Oui, oui. Là, par exemple, on voit que c'est fluide, tandis que là, pas. Oui, de cette partie-là, on voit qu'elle l'a fait au crayon, tandis que ça, on voit qu'elle l'a un peu léché.
Elle mélangeait aussi de temps en temps, vous disiez, des sucs de fleurs.
Ah oui, alors ça, c'était très particulier. Et ça, elle le faisait quand elle voulait faire des grandes surfaces et qu'elle n'avait plus assez de couleurs. Et ça donne la peinture au sucre de fleurs, au sucre de feuilles, ça donne quelque chose d'inimitable. C'est extraordinairement fluide et limpide comme couleur. C'est une manière tout à fait particulière, tout à fait empirique, quoi, bien sûr, de la part d'Aloïse.
Comment est-ce qu'elle arrivait à faire ces plages blanches-là?
Oh, alors quelquefois, elle mettait un peu de pâte dentifrice ou un peu de craie ou quelque chose comme ça. Oui, là, en effet, on dirait qu'elle a remis quelque chose par-dessus.
Elle avait un côté un peu bricoleuse, non?
Très bricoleuse.
Ah, le bricolage, c'est une émission de Laurence Crémière sur France Culture, fondamentale dans l'art brut. Wölfli, il était toujours lui aussi en manque de crayons noirs et de couleurs. Comment se fait-il que cette femme, on le voit souvent dans des témoignages recueillis par Jacqueline Porret-Forel, trouvait très, très laid tout ce qu'elle avait fait et disait, faut le jeter.
Je ne sais pas si elle le trouvait. Peut-être qu'elle avait peur du regard des autres. Mais c'est pour Jacqueline Porret-Forel qui l'a... Parce qu'elle cachait sous son matelas ses dessins, probablement, parce que justement, vous imaginez quelqu'un qui a passé 30 ans de sa vie dans un hôpital psychiatrique et qui est aliénée, folle aux yeux des autres, et elle a ce besoin de créer, elle a ces images à l'intérieur d'elle, qu'elle a besoin de sortir, donc elle n'ose pas les montrer, elle les cache. Et je suis sûre, moi, qu'elle ne les trouvait pas laides, elle trouvait que ça n'avait pas d'intérêt pour les autres. Mais elle, c'était elle qu'elle dessinait, c'était ses pensées, c'était ses émotions, c'était son palais idéal à elle aussi.
L'art brut est rattrapé par le marché, parfois, l'art brut est rattrapé par les thérapies. Voilà que Aloïse vit assez longtemps pour voir débarquer dans son asile une art-thérapeute.
Une art-thérapeute qui lui explique comment il faut dessiner, comment composer un tableau, qu'il faut signer en bas de la page. Évidemment, Aloïse qui avait réussi à retrouver la liberté grâce à la création, voilà que quelqu'un s'immisce dans sa tête, la prive de ce qu'elle avait pu conserver, sa liberté intérieure, son rapport à la création, c'est-à-dire cette pulsion de créer qui est le propre de l'être humain. La seule chose qui lui reste, on lui enlève. Elle est morte quelques mois plus tard de désespoir.
La voix qu'on n'a pas assez entendue jusqu'ici et qui est responsable, hélas, de l'expérience musicale que vous ne vouliez pas diffuser il y a un instant.
La notion même de maladie mentale, je la conteste. De même que la notion de santé mentale, parce que je demande à ce qu'on me montre celui qui est parfaitement sain. Je trouve que ce qu'on attend de l'art, et tout le monde est unanime sur ce point, c'est qu'il apporte quelque chose de nouveau. Ce qu'on demande, on dit d'un art qu'il est intéressant quand il est novateur, quand il est inventif, quand il apporte quelque chose de neuf, et par conséquent quand il n'est pas normal, quand il n'est pas banal.
Vous l'aurez deviné, c'était Jean Dubuffet. Alors, qui constitue ce concept d'art brut dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale?
Il prospecte dans les hôpitaux psychiatriques en Suisse, il réunit une collection et il pense, surtout, il n'a pas une théorie qu'il va ensuite illustrer. Il rencontre des œuvres, il rencontre des artistes, il est touché. Lui-même étant un artiste, il rencontre des sortes de frères d'armes, d'une certaine façon. Et il pense d'une façon révolutionnaire, subversive, l'art, et il nomme ses œuvres l'art brut. Il y avait eu avant toute une, si on fait l'archéologie de l'art brut, il y avait eu des avancées, il y avait l'art naïf, il y avait justement ces propositions d'aliénistes de créer des musées, de regarder d'une façon différente les œuvres d'art. Il y avait les surréalistes, ils se branchaient sur les automatismes psychiques, comme Breton, mais il séparait toujours l'art brut des autres artistes. Et voilà que Dubuffet appelle ça l'art brut et qu'on pense toujours comme une sorte d'oxymore, quelque chose de contradictoire, d'avoir mis l'art, la chose la plus polissée, la plus cultivée, la plus socialisée qui soit, avec le brut qui renvoie à la sauvagerie ou à l'origine. Mais en fait, pour Dubuffet, c'est un pléonasme. L'art brut, parce que l'art ne peut être que brut. Et c'est une révolution.
Il faut retourner le gant pour ne garder que le poing, quoi.
Voilà.
Il disait, avant de se dessaisir de sa collection, qui continue, évolue, s'enrichit, notamment en Suisse, qu'elle devait être exposée, si elle l'était, longtemps dans la pénombre. C'est toujours la pénombre.
C'est peut-être parce que les œuvres d'art brut viennent de cette zone d'ombre à l'intérieur de nous. C'est une énigme. On pose toujours la question du sens de l'art brut. Souvent, elles font peur parce qu'elles font appel à cette pulsion créatrice qui est le propre de l'homme, mais qui bien souvent, et notamment chez les auteurs d'art brut, est d'une force, d'une sauvagerie incroyable. Elle est irrépressible. Donc, elle peut faire peur. Et on préfère l'ombre à la lumière parce que elles ont aussi besoin de secrets, elles ont besoin de mystères pour respecter ce qu'elles sont et d'où elles viennent. Et surtout où elles vont, parce que elles ne s'intéressent pas à la gloire, elles s'intéressent pas à la spectacularisation qu'on leur porte maintenant dessus. C'est des œuvres du secret, c'est presque, elles relèvent, une artiste disait que c'était un miracle.
Avons-nous trop surexposé l'art brut? Mais non, Martine Luzardi, je rappelle que vous avez publié, dirigé un gros volume avec nombre d'auteurs aux éditions Citadelle et Masno. Cette émission a été préparée par Ininka Negulesco, Pierre Lemierre à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.